Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Alors passons à notre thème de la semaine qui est où en sont les Patriots, que valent les Patriots. On vient déjà de parler dans ce match, c'est pour ça que je te cadrais beaucoup en disant dans ce match. Revenons un petit peu au plus global, ils sont à 6 victoires et 6 défaites. Ils sont donc statistiquement très moyens, on peut pas être plus moyen que 6 victoires, 6 défaites, ils sont pile au milieu. Donc où est-ce qu'ils en sont finalement pour maintenant et pour le futur? C'était là-dessus qu'on voulait en venir dans ce thème de la semaine. Nolif par exemple dit dans le chat très à propos, ça surperforme toujours vis-à-vis de l'effectif, Bill Belichick est tranquille. Est-ce que aujourd'hui ils valent 6 victoires et 6 défaites avec l'effectif qu'ils ont par exemple pour toi?
Oui, pour moi ça vaut 6 victoires et 6 défaites, l'effectif qu'ils ont. Après j'ai toujours du mal à me dire qu'on met le coach de côté. Le coach fait partie de l'effectif, ça fait partie intégrante et de l'effectif. Donc quand on a un très bon coach, c'est comme si on avait un très bon, c'est-à-dire que on peut pas le mettre de côté, on peut pas dire il y a un très bon quarterback, mais est-ce que autour ça fait partie. Donc ouais. Si on met tout ça, on prend la globalité de la franchise de New England, oui, ça vaut 6-6, ça vaut pas beaucoup plus. Ça vaut pas moins parce qu'ils ont l'avantage de réussir globalement à battre les équipes qu'ils doivent battre et ils passent rarement à travers, notamment grâce au coach. Même si quand on regarde, il y a une défaite contre les Bears, mais bon, il y a une défaite contre les Packers, qui à ce moment-là, on se dit, bon, c'est les Packers, mais on se rend compte que finalement, les Packers, ils perdent en prolongation, ils auraient pu les gagner. Mais bon, voilà, il y a 6 victoires, il y en a 2 contre les Jets. Globalement, ça gagne contre les équipes contre qui ça doit gagner, ça perd contre les équipes contre qui ça doit perdre. Donc, c'est une équipe qui a sa place, à mon avis, mais c'est une équipe qui peut pas aller beaucoup plus haut. C'est une équipe, si c'est la question, elle peut pas aller beaucoup plus haut.
Alors, soyons très concrets, c'est quoi leur point fort aujourd'hui? Je pense que là-dessus, on va aller vite.
La défense qui parfois est un petit peu surcotée dans le sens où elle performe sur un match entier en ayant la capacité de faire déjouer une attaque complètement et du coup de donner des statistiques folles. Je pense pas que ça soit une défense du niveau de par exemple celle de San Francisco ou dans le top 3 des défenses. Par contre, ça fait partie clairement des meilleures défenses de la ligue, c'est le point fort de cette équipe.
Ouais. Alors ils sont 8e sur les yards encaissés par match, 8e sur les points encaissés, 9e contre la passe, ils sont un tout petit peu plus loin contre la course, je crois que c'est 11e et ils sont 2e sur les sacs. Donc clairement, du côté de la défense, c'est solide. Et j'ai envie de dire, tant que Bill Belichick est là, c'est bon.
Globalement, c'est ça. C'est lui qui est un peu l'architecte de cette défense. Il y a des bons joueurs tout de même, et puis il y a des joueurs qu'il arrive à intégrer et à rendre bons et qu'ils deviennent. Donc c'est vrai que cette défense-là, on peut voyager avec cette défense, et globalement, c'est la partie du terrain qui a fait gagner beaucoup de matchs.
Donc on se retrouve à parler de l'attaque à nouveau, parce que c'est vraiment le sujet en fait de New England cette année. On se retrouve à parler de cette attaque et à se demander où est le problème. Alors, on parlait du coaching, on est obligé d'y venir, parce que tu disais on peut pas se séparer le coach de l'effectif, et mine de rien, Matt Patricia, c'est un choix de Bill Belichick aussi. Matt Patricia, qui est leur coordinateur offensif de fait, de mémoire, il a pas le titre, je crois, mais c'est lui qui appelle les jeux. Et Mac Jones est leur quarterback. Qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on garde entre Patricia et Jones?
Je pense que... Alors, Bill Belichick est parfois surprenant. Je pense que... Il va falloir, en tout cas, la logique voudrait que ce soit le coordinateur offensif qui change. Mmh. Avec en plus le fait que tu l'as dit, qu'il n'y a pas le titre de coordinateur offensif. Donc ça, c'est presque un non-événement de dire on a recruté un coordinateur offensif, on n'en avait pas, on en prend un. Ça serait un peu la logique, et en plus Patricia sortirait par la grande porte, il serait pas viré, ou il serait pas destitué de son poste. Je pense que la logique veut ça. Maintenant, j'ai l'impression, et si on se rappelle un petit peu il y a un an, les Patriots font les playoffs parce que il y a aussi maintenant un peu plus d'équipes en playoffs. Les Patriots font les playoffs et on se dit c'est pas une équipe qui peut aller très loin, mais c'est une équipe qui a des bases. J'ai l'impression qu'on a fait un petit peu un pas en arrière par rapport à la saison dernière, alors qu'on avait l'impression que c'était l'année 0 ou l'année 1 d'un futur, d'une construction. J'ai l'impression qu'on a fait un peu en arrière parce que déjà, McDaniel, c'est parti. En effet, il y a cette question au poste de coordinateur offensif. On ne le savait pas au début de la saison, Matt Patricia là, mais ça fait pour le coup vraiment pas effet. Et puis en plus, j'ai l'impression qu'il s'entend pas très bien footballistiquement. Je parlerai pas dans le vestiaire, je sais pas. Mais footballistiquement, avec Mac Jones, je l'ai dit déjà dans le podcast, mais j'ai l'impression que quand Bailey Zappi est là, c'est pas forcément un meilleur joueur que Mac Jones, je pense pas. Mais j'ai l'impression que footballistiquement, il s'entend mieux avec Matt Patricia, avec ce que propose Matt Patricia en attaque. Et du coup, ça donne des performances qui parfois semblent meilleures. Alors statistiquement, c'est pas souvent le cas, mais voilà. Donc il y a vraiment deux grandes questions. Sauf que le quarterback, il a été drafté 15e, je crois, l'année dernière. Ouais. Et j'ai du mal à imaginer qu'au bout de deux ans, on change, parce qu'en plus, si ça va pas avoir un choix de draft très haut, surtout qu'il y a des chances que ça fasse 9-8, 8-9 à la fin de la saison, très honnêtement. Donc j'ai du mal à imaginer qu'on parte et qu'on change de quarterback. Donc ça va être, à mon avis, le coordinateur offensif, même si je suis pas sûr que ça règle tout.
T'attends que Josh McDaniels se fasse virer des Raiders, puis tu le rapatries encore une fois, non?
Bah globalement, et puis ça peut aller plus vite que ce qu'on imagine, mais c'est vrai que. C'est on le dit en rigolant, mais le scénario me surprendrait pas outre mesure.
Bah lui, ou j'ai vu passer Bill O'Brien aussi, qui est.
Des anciens.
Voilà, autant Bill Belichick, des fois il est créatif pour trouver des failles dans le règlement, autant pour les recrutements moins. C'est.
Ah surtout dans son staff, ouais.
Ah ouais, quand tu lui as plu une fois, t'as tes entrées,
non.
Quoi.
Non. Et puis surtout, j'ai du mal à imaginer, j'ai pas de nom en tête comme ça, mais j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas un coordinateur offensif de qualité sur le marché au moment où ils ont décidé, ou au moment où ils ont dit qu'il n'y en aurait pas. Et c'était une surprise pour personne que Josh McDaniels partait, alors à Las Vegas ou pas, mais que Josh McDaniels allait partir. J'ai du mal à imaginer qu'il n'y avait pas quelqu'un de qualité qui voulait venir à New England, surtout à l'intersaison. Donc un peu surprenant. Ouais.
Après, en vrai, on doit, c'est peut-être parce qu'on a des standards hyper élevés, mais c'est pas non plus étonnant qu'il y ait une régression quand en 3 ans du coup maintenant, t'as perdu à la fois le meilleur quarterback de tous les temps, et McDaniel, c'est ce qu'il est en tant que coach, mais c'est un très très bon coordinateur offensif qui a souvent s'adapter à plein de trucs, quoi. Donc la chute, elle était inexorable en fait, quasiment.
Ah bah oui, on perd clairement. Et en fait, c'est peut-être ça le pas en arrière l'année dernière, c'est que Mac Jones a été peut-être rendu un peu meilleur que ce qu'il est vraiment par Josh McDaniels. Il a souvent été critiqué, Josh McDaniels, notamment parce que à Denver, ça a pas fonctionné et tout. Mais je suis assez d'accord avec toi pour dire que pour le coup, à New England, il a souvent été créatif. Il a souvent su s'adapter, comme tu l'as dit. Je pense que c'est pas facile en plus de travailler avec Tom Brady. Ça a souvent marché globalement. Et même après ça, ils ont réussi à faire quelques victoires avec un Cam Newton qui, on l'a vu, était rincé, on va dire les choses comme ça, et avec un Mac Jones qui est pas particulièrement poli encore. Donc Josh McDaniels, en effet, tu l'as dit, quand il part, il laisse un gros trou.
C'est quoi l'axe de progrès du coup pour cette attaque?
J'ai du mal à le voir concrètement, dans le sens où pour moi, l'axe de progrès principal, c'est le quarterback. Il faut que le quarterback progresse. Il faut qu'il prenne de la confiance. Il faut que les coachs prennent de la confiance en lui aussi.
Alors attends, j'oriente ma question parce que moi là, du coup, j'ai l'impression d'être face. J'ai l'impression qu'on parle de Tua Tagovailoa il y a un an en fait. Et donc, comment on fait progresser la confiance d'un quarterback et un quarterback?
On lui prend un receveur numéro 1.
Bah ouais, on lui file des armes quand même, quoi.
Oui, globalement, c'est ce qu'il faudrait, parce que de toute façon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On essaie d'aller prendre un très bon quarterback et on l'entoure. Et si le quarterback est pas très bon, il faut quand même l'entourer.
Ben,
donc globalement, oui. Après, honnêtement, j'avais été plutôt emballé il y a 2 ans du recrutement tout de même. Quand il décide de sortir le chéquier, alors que c'était pas du tout patriote, j'avais été emballé dans le sens où, allez, ok, ils se lancent et ils essayent d'aller chercher des mecs, et pourquoi pas aller des mecs qui peuvent éclore. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc peut-être qu'il va falloir aller chercher des gars qui sont déjà installés. Parce qu'en fait, les Agolor, les Kendrick Bourne, tout ça, c'était des mecs qu'on imaginait peut-être passer un cap à New England. Il n'y en a aucun qui l'a fait. Globalement, il n'y en a vraiment aucun qui l'a fait. Il faut prendre un mec qui a déjà passé ce cap-là. Mais pour le coup, il faut payer. Enfin, il faut allonger plus que ce qu'ils ont allongé il y a deux ans.
Oui, moi, j'avoue, déjà à l'époque, je ne partageais pas ton optimisme hein, sur Agolor, sur machin. Je trouvais qu'ils avaient payé excessivement cher sur des mecs qui étaient excessivement pas incroyables. Et moi, je dis vraiment, encore une fois, je prends l'exemple de Tagovailoa. C'est que, il y a au bout d'un moment où c'est pas forcément faire un all-in, mais. T'as une défense qui sera toujours bonne, t'as un jeune quarterback qui a montré des trucs corrects sur sa première année, il te faut... Alors, c'est peut-être cliché parce que Bill Belichick est presque, c'est pas tout à fait le plus âgé de la ligue, mais un des coachs les plus âgés de la ligue. Il y a un moment où il faut être une attaque moderne, quoi. C'est-à-dire qu'il faut prendre un coordinateur offensif un peu moderne, il faut entourer ton quarterback avec des bons receveurs, parce qu'en fait, les Patriots, ils ont pas eu de bons receveurs depuis une éternité. C'est-à-dire que Edelman, il était vraiment atypique et il marchait très très bien dans leur système, mais c'est pas la définition classique d'un receveur numéro 1.
C'est qui le dernier receveur numéro 1 de New England?
Bah moi, c'est honnêtement, c'est Randy Moss, quoi.
Oui, parce que il y a Edelman, il y a Wes Welker, mais c'est vrai que c'est clairement pas des joueurs qui où il y a écrit receveur numéro 1, c'est des joueurs qui le deviennent peut-être par défaut et qui des fois sont très bons dans où c'est Gronkowski en fait.
C'est ça, c'était Gronk leur receveur numéro 1. Mais ce que je veux dire c'est que ils draftent excessivement mal et ça évidemment faut le mettre au débit de Bill Belichick parce que c'est le GM de cette équipe aussi. Ils draftent excessivement mal sur les receveurs, c'est une catastrophe permanente. Donc au bout d'un moment, oui, quand il y a un Tyreek Hill qui est dispo ou quand il y a un tel ou un tel qui est dispo, bah ouais, faut mettre le paquet et je suis désolé d'être morbide, hein. Mais au bout d'un moment, le all-in, ça va aussi être pour Bill Belichick, parce que il a 70 piges passées, il va peut-être pas coacher jusqu'à 150 ans non plus. Donc, vas-y, quoi. Entoure ton jeune quarterback, donne-lui des cibles, mets-toi un jeune coordinateur offensif, prépare même la relève, j'en sais rien. Mais...
Ce qui est vrai, et ça se voit, ce que tu racontes. Alors on parle d'organisation, de recrutement et tout ça, c'est un peu moins palpable. Mais ce que tu racontes là, quand on regarde les matchs de New England, on le voit, c'est très 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 rare que Bill Belichick tente une quatrième tentative.
Ouais.
Alors c'est pas lui le coordinateur offensif, certes, mais on sait, c'est quand même lui qui lance les directives, c'est lui qui donne le et c'est très rare et on le voit et même. Parfois, quand il va miser sur on prend les points, on revient, on défend. Alors oui, la défense, mais c'est vrai que parfois on aurait envie. Alors ils l'ont fait un petit peu là contre Buffalo, mais dans la saison, je sais pas, il doit certainement avoir cette statistique-là, qui doit se trouver. Je la regarderai tout à l'heure par curiosité, mais je pense que c'est une des équipes qui tente le moins de quatrième tentative. Mmh. Et c'est pour moi un petit peu la définition, alors un peu caricaturale de la modernité, du coach moderne. On parle de Staley, on parle de beaucoup de coachs qui tentent beaucoup de quatrième tentative. Bill Belichick, il est très très classique dans son coaching et ça se transpose dans le recrutement dont tu parlais et je suis assez d'accord avec toi.
Et ben ça pourrait être une des pistes, on verra si les Patriots la suivent. En tout cas, c'était bon de faire un point sur cette équipe toujours très suivie hein, en France évidemment. Merci beaucoup Lucas.
Avec plaisir et puis bon match à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.